Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Jean Roger, l'annoncé Yakuba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur notre page Facebook de VOA Afrique. Donc, nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkpatine depuis Boïko au Bénin. Élisée, fraîchement rentrée du Maroc. Élisée, bonsoir et bonne arrivée chez toi.
Merci beaucoup Yakuba, bonsoir et bienvenue au Bénin.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yakuba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yakuba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Essentiellement, trois sujets pour ce numéro de Sporama, la Ligue des Champions et la Coupe CAF. Le mondial des clubs remporté par le Real Madrid et son corollaire, la candidature marocaine pour l'accueil de la CAN 2025 en concurrence avec d'autres pays. On en parle ce soir. Une fois de plus, n'est pas coutume. Nous allons aussi parler du Grand Prix de Dakar, une compétition de motos, scooters et voitures prévue pour le week-end à venir. Les détails dans très peu de temps avec le promoteur Maodo Malick Ndiaye qui sera en direct donc depuis la capitale sénégalaise. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. La première journée des matchs de poule de la Ligue des Champions, CAF, s'est jouée le week-end écoulé. Dans le groupe C, le Oroya de Conakry a réussi son entrée. Le seul représentant de l'Afrique de l'Ouest a fait le service minimum 1-0 devant les Tanzaniens de Simba, d'où la satisfaction du défenseur malien du Oroya, Issiaka Samaki.
Satisfait, mais rien n'est fait. On a joué contre une équipe pas des plus expérimentés que nous, mais nous on est plus expérimentés que nous. On peut dire qu'ils se sont bien organisés que nous. Et sur le plan physique, je pense qu'on a répondu. Notre temps fort, on a pu marquer et le temps faible, on a pu défendre. Je pense que c'est une bonne chose parce que si tu ne marques pas, faut pas encaisser. Ça, c'est notre marque de fabrique. Je pense qu'on va continuer sur ça. Avec ça, on pourra aller loin encore.
Issiaka Samaké, défenseur malien du Oroya. Les Guinéens sont deuxièmes du groupe C à égalité de points avec les Marocains du Raja Casablanca qui ont laminé 5-0 les Ougandais de Vipers. Alors Amdine, je commence par vous. C'est bien parti pour le Oroya qui aura pour adversaire direct, on va le rappeler dans ce groupe C-là, le Raja de Casablanca. Amdine, si vous m'entendez.
En phase de groupe, le champion guinéen, comme vous l'avez dit tantôt, s'est imposé sur le score d'un but à 0. L'unique but a été inscrit par l'attaquant sénégalais Pape Abdou Ndiaye à la 18e minute. Les Guinéens avaient même l'opportunité de battre cette équipe par 2 buts à 0, mais malheureusement, l'attaquant sénégalais a raté un penalty. Le Sénégal a vu son tir arrêté par le portier zambien. Mais comme vous l'avez dit tantôt, avec cette courte mais précieuse victoire, le Oréa lance bien cette compétition et se classe à la 2e place du groupe C derrière le Raja. Donc, ça va se jouer entre ces deux équipes. En tout cas, le Oréa a maintenant l'expérience et l'expertise de ce genre de compétition parce que chaque année, le Oréa se qualifie pour la phase de poule et le Oréa négocie bien ses matchs pour pouvoir sortir en 8e de finale. Yakuba.
Toujours donc dans cette poule C, les Algériens du CR Belouizdad ont surpris le Zamalek au Caire 1-0. Même score pour l'Espérance de Tunis dans l'autre match de la poule C devant les Soudanais d'Al-Merrek. Alors Élisée, on va le dire, c'est un début raté pour le Zamalek dans cette poule qui s'annonce aussi serrée. Élisée, vous m'entendez?
Oui, Yakuba, il faut dire, c'est un début raté, il faut le dire, surtout que le match se disputait à domicile, et que c'est le club algérien du CR Belouizdad qui est venu créer la sensation. Le Zamalek, qui quand même rencontre quelques difficultés aussi en championnat, montre véritablement la force, sa forme du moment, ça montre combien de fois cette équipe est en difficulté en championnat, eh bien, elle doit vite se ressaisir pour la prochaine journée, histoire de ne pas se laisser sur le carreau, surtout quand il s'agit de se qualifier pour les quarts de finale. Zamalek a désormais la pression derrière lui.
Dans le groupe B, un seul match joué et remporté par les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, vainqueur 1-0 des Soudanais d'Al Hilal. La rencontre entre Al Ahly d'Égypte et le Coton Sport de Garoua a été reportée au samedi 4 mars en raison de la participation des Égyptiens au Mondial des clubs. Pareil hein, pour le Wydad de Casablanca, dont la rencontre contre l'AS Vita Club sera disputée le vendredi 3 mars en raison de la présence des Marocains aussi au Mondial des clubs. Le seul match hein, de cette poule s'est soldé par un score de 0-0 entre les Algériens de la JS Kabylie et les Angolais de Petro de Luanda. Première journée également en Coupe CAF et de bien réussi pour le tout-puissant Mazembe vainqueur 3-1 des Maliens de l'AS Real de Bamako. Les Corbeaux partagent hein, la première place du groupe D avec les Tunisiens de l'US Monasti qui ont battu 2-0 les Tanzaniens de Nyang Africans. Dans la poule B, ce sont les Diables Noirs hein, du Congo qui sont en tête après leur victoire 3-0 sur les Nigériens de Rivers. Ils comptent 2 points de plus que le Darin Club Motema Pembe qui a accroché l'ASEC Mimosa à Yamoussoukro, je le rappelle. 0-0 à noter aussi hein, le succès de Marumo Gallant d'Afrique du Sud, 4-1 sur les Libyens d'Al Akdar et le nul 1-1 entre les Togolais de Lasco de Kara et les Égyptiens de Futur FC. Mondial des clubs à présent, le Real Madrid a fait respecter la hiérarchie préétablie, hein, s'imposant en finale devant les modestes mais valeureux Saoudiens d'Al Hilal, 5-3 à Rabat. L'analyse du match avec Amin Birouk, notre correspondant au Maroc.
Logique a prévalu Yacouba puisque le Real n'a mis que 18 minutes pour prendre l'ascendant sur une équipe de Hilal très combative, sans complexe. 2-0 avec notamment un milieu de terrain très entreprenant du côté madrilène. Au talent de Modric, à la science du jeu de Kroos, il y avait la percussion et la force de caractère de Valverde. Mais l'homme du match, c'est Vinicius Junior. Le joueur brésilien a été de tous les bons coups. 2 buts, une passe décisive et surtout beaucoup de percussion, beaucoup de dribbles, beaucoup de fantaisie. Dans un match où le Real a montré les deux côtés de son jeu. La phase claire avec notamment beaucoup d'imagination en phase offensive, beaucoup de variété dans les attaques et une défense poreuse. C'est la partie sombre puisque le Real a encaissé 3 buts, 2 notamment en deuxième mi-temps qui étaient évitables, ce qui en dit long sur la déconnexion qui existe de temps en temps dans la phase défensive dans cette équipe entraînée par Carlo Ancelotti. Le Real Madrid va devoir maintenant réussir à passer à un autre cap, à changer bien évidemment de scénario, puisque après la Coupe du Monde des clubs, la 5e sous sa nouvelle dénomination, la 8e si l'on doit comptabiliser les 3 coupes intercontinentales qui ont été gagnées en 60, 98 et 2002, les Merengues doivent maintenant affronter un mois de février très très difficile avec la Champions League, le match aller contre Liverpool, un derby brûlant contre l'Atlético de Madrid le 26 février et ensuite la demi-finale aller de la Copa del Rey contre le FC Barcelone.
Alors, Jules, Amine le disait tout à l'heure, le Real vainqueur hein, de ce mondial des clubs, est-ce un dénouement attendu au regard quand même hein, de son début d'année 2023 assez mitigé?
Oui, mais il faut dire que la victoire du Real n'est pas une surprise. Et dans la mesure où, avec l'avènement du football business qu'on connaît à l'heure actuelle, tous les meilleurs joueurs du monde se jouent en Europe et les grandes équipes européennes sont devenues des multinationales nettement supérieures aux équipes nationales qui évoluent souvent en Coupe du Monde. La preuve, le ballon d'or vient souvent de ces équipes. Alors, pour les autres équipes, il faut juste venir créer la sensation et à la limite, peut-être se dire que sur certaines situations, on peut renverser le géant, mais en fait, le Real était à sa place et il l'a occupé. Et bravo surtout à Al Hilal qui a fait un bon parcours, surtout quand on sait que cette équipe n'est pas une surprise en tant que telle. Et l'Arabie Saoudite avait bien battu l'Argentine lors de la récente Coupe du Monde.
Voilà, le Real hein, qui a aussi bénéficié du capital sympathie de ses nombreux supporters au Maroc, comme le dit Amin Birouk.
Le Real Madrid a été aussi aidé par la présence de très très nombreux supporters qui sont venus encourager l'équipe merengue. Beaucoup de Marocains qui appartiennent à des associations de supporters, ce qu'on appelle en Espagne les Peñas, à Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Marrakech. Il y a eu aussi les Peñas d'Algérie qui sont venus normalement, de Mauritanie, des Émirats Arabes Unis, de Palestine, qui ont apporté ce soutien, cette chaleur qui a fait penser que le complexe Mouyabla était un mini Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a de la personnalité. C'est un héritage, c'est une histoire. Et aujourd'hui, on a vu des joueurs qui sont rentrés en finale avec l'intention de l'emporter. C'est le même pressentiment qu'on avait eu lors de la finale de la Champions League face à Liverpool, même si l'équipe avait été archi-dominée. Et c'est ce qu'on a vu tout au long de la saison dernière avec ces retournements de situation spectaculaires. On sait aussi qu'en Espagne, la Coupe du Monde des clubs n'a pas une valeur symbolique importante. Mais en cas d'échec, ça aurait été un scandale retentissant. Donc les Merengues ont tenu leur rang, ils ont sorti leur ADN au moment où il fallait et ils ont gagné cette Coupe du Monde des clubs quasiment sans avoir à souffrir.
L'Afrique n'a pas eu d'équipe sur le podium cette année. Un match de classement à l'Ali du Caire a malheureusement été battu 4-2 par les Brésiliens de Flamengo. Alors, Amdine Sy, le Wydad Casablanca a vite été sorti du tournoi. Les Égyptiens ont tout tenté, mais ça n'a pas suffi.
Oui, Yacouba. Si on regarde cette compétition, moi, je suis déçu, je reste sur ma faim, puisque l'Afrique était attendue après la performance du Maroc à la Coupe du Monde. On pensait que ce soit Al Ahly ou le WAC, il allait faire mieux que le tout-puissant Mazembe qui avait réussi à disputer la finale en 2010 et le Raja de base Casablanca en 2014. Malheureusement, le WAC a déçu Al Ahly. Bon, c'est démerdé tant bien que mal, mais ils n'ont pas eu à gagner cette troisième place, puisque c'est vrai qu'ils ont tombé les armes à la main face au Real Madrid, mais pour cette troisième place face à Flamengo, ils l'ont très mal négocié. Et encore une fois, on va prendre notre mal en patience parce que les équipes africaines vont encore attendre. La domination européenne va continuer. Je pense que c'est une grande déception, surtout que cette compétition se passait dans notre continent, au Maroc. En tout cas, je suis très déçu par la performance de ces deux clubs africains, Yacouba.
Oui, ça se sent bien dans la voix d'Amdine. Alors, le Maroc a mis les petits plats dans les grands, comme on le dit, pour impressionner lors de l'accueil de ce mondial des clubs joué du 1er au 11 février à Tanger et à Rabat. Avec en ligne de mire, sans doute, l'organisation de la CAN 2025 retirée à la Guinée, pas prête selon la CAF. 5 pays ont déposé leur candidature pour remplacer la Guinée. L'Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin. À la faveur de ce mondial justement des clubs, la Fédération Royale Marocaine de Football a invité une centaine de journalistes pour visiter les infrastructures sportives et hôtelières et routières et autres du Royaume. Parmi eux, notre correspondant au Bénin, Élisée Mpatine. Alors, Élisée, qu'est-ce que vous retenez de cette opération séduction du Maroc?
Ouais, je retiens simplement qu'il fallait ne pas rater ce rendez-vous, il fallait ne pas rater cette visite dans un pays où tout a été bâti pour organiser des grands événements. Vous êtes sans savoir que le Maroc, c'est pas pour la première fois que le Maroc organise des grandes compétitions. C'est la troisième fois que le Maroc organise la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, et déjà le Raja à son club est allé une fois déjà en finale. La CAN féminine, la Ligue des champions féminines, vous savez tout ça. Le Maroc a les moyens d'organiser ce genre de compétition. La visite a été extraordinaire, il faut le dire simplement. C'est vrai que bon, ça s'est passé dans une condition exceptionnelle. C'est comme si on était en tourisme, il faut le dire, puisque les petits plats ont été mis dans les grands plats. C'était une organisation inédite, Yacouba Ouédraogo. On a parcouru presque toutes les grandes villes du pays, Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès ou encore Agadir. Vous imaginez, on a visité les infrastructures, le grand stade de Marrakech, le stade de Casablanca, le stade de Rabat Abdel Moulay, le stade du prince Abdallah, Moulay Abdallah, j'allais dire, le stade de Tanger. Vous imaginez ces deux grands stades qui ont abrité cette Coupe du Monde des clubs. Il faut dire que le Maroc aussi, outre ces infrastructures sportives, possède aussi et des infrastructures hôtelières extraordinaires, les routes, le grand TGV qui relie Casablanca à Tanger en passant par Rabat, vous imaginez, des routes qui relient presque toutes les grandes villes du pays. Yacouba, c'est impressionnant ce que nous avons vu au Maroc. Le gouvernement qui met, le royaume, j'allais dire, qui met énormément de moyens dans la réalisation des infrastructures. Vous savez que le royaume, à travers la fédération, vient de mettre à la disposition du Raja Athletic Club de Casablanca un nouveau centre de formation. Vous imaginez, ça montre combien de fois le roi est décidé de révéler le pays à travers le sport. C'est simplement extraordinaire. Et le Maroc, on peut dire aujourd'hui, est prêt, puisque le Maroc a déjà 6 grands stades qui peuvent organiser cette Coupe du Monde. Simplement, Yacouba, c'est vrai que la candidature, l'Algérie, qui a organisé le Chad, l'Afrique du Sud aussi qui est là, le Nigeria aussi qui est là. Mais franchement, aujourd'hui, ce qu'on a vu au Maroc, on ne peut pas hésiter pour dire que ce pays peut organiser une autre grande compétition africaine.
Élisée, voilà, vous pour positionner désormais en promoteur de cette candidature marocaine. Apparemment, écoutez, le message est bien passé. Alors, Jules, il y a aussi d'autres candidatures. Je parlais de celles zambiennes, l'Afrique du Sud. Il y a le duo Nigeria-Bénin. Mais ce qui s'annonce, c'est un duel entre le Maroc et l'Algérie qui semble se dessiner. Pourquoi, selon vous?
Oui, en principe, c'est d'abord un duel entre le Maroc et l'Algérie. Et Élisée l'a bien dit, et sur le plan infrastructurel, au niveau de la promotion, au niveau de, c'est pas moi, des actions posées sur le plan sportif aussi. Et le Maroc a une ou deux longueurs d'avance. Et de ce côté-là, l'Algérie avait le champ pour essayer de briller tout de même. Le champ s'est très bien passé. Le niveau de jeu, on l'a vu, a été relevé. Les infrastructures étaient aussi en place. Mais surtout, la grosse surprise, c'était dans les tribunes. Le plus souvent, quand on joue en Afrique du Nord, on se plaint que lorsqu'il s'agit des équipes venues d'autres, que l'équipe nationale n'est pas en train de jouer et les stades sont vides ou relativement vides. Mais là, l'Algérie a fait un effort pour que, quand vous regardez dans les tribunes, vous pouviez voir que des familles entières venaient avec des enfants et tout le monde. Et donc, c'était toujours bien. Il y avait une ambiance bon enfant, contrairement à la réputation que se fait souvent l'Algérie, et où tout le monde n'aime pas toujours aller faire un match clic. Bon, alors là, de ce côté, ils ont fait un pas en avant, mais tous les deux ont toujours un gros problème, un caillou au pied. Et ce caillou au pied, c'est le problème des relations diplomatiques. Deux grandes équipes, deux grands dinosaures du football mondial même, et comme le Maroc et l'Algérie. Si l'un prend l'organisation de la Coupe des Nations, on ne sait pas ce que l'autre, quelle sera la réaction de l'autre s'il est qualifié et il sera qualifié. Et tout cela peut pousser peut-être la CAF à chercher un troisième larron qui peut être la bonne candidature humaine, Nigeria et Bénin, ou alors les infrastructures de l'Afrique du Sud, ou peut-être la nouveauté zambienne. Mais je crois que le Maroc, pour moi, est le favori toujours.
Alors, Amdine, Jules l'a évoqué, on le sait tous, c'est un secret du polichinelle. Il y a cette tension diplomatique là entre le Maroc et l'Algérie à propos du Sahara occidental, dont se dispute bien sûr le Royaume et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Alors, justement, comment vous voyez cette opposition Maroc-Algérie dans l'accueil de la CAN 2025?
Oui, ce sera très difficile pour départager ces deux monstres du football continental parce que, comme Jules l'a dit et Élisée l'a dit, hein, sur le plan des infrastructures, il n'y a rien à envier aux grands pays de l'Europe puisque le Maroc vraiment est sur ce plan loti. L'Algérie a fait beaucoup d'efforts et si on regarde ce qui vient de se passer avec la réussite de l'organisation du CAN par l'Algérie, l'Algérie est bien placé. Mais le Maroc qui a déjà reçu la Coupe d'Afrique chez les dames et la Coupe du Monde des clubs, mais le Maroc a aussi frappé un grand coup. Maintenant, le X, c'est sur le plan politique. Ce qui s'est passé lors du CAN avec l'absence du Maroc est vraiment dommage. C'est inqualifiable. On ne peut pas, en ce moment, en sport, avoir des problèmes politiques qui viennent s'immiscer au niveau du sport. Il faut qu'on règle ce problème une fois pour toutes, puisque ça peut amener beaucoup de problèmes avec d'autres pays. On est en sport encore une fois, et je pense que les responsables de la CAF doivent prendre le taureau par les cornes, régler ce problème, puisque cette candidature, je pense que cela va faire la différence. Hein. Il faut régler ce problème. Si on ne le règle pas, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Algérie, aucun de ces deux pays ne va pas organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, j'allais dire, parce qu'on ne peut pas empêcher un pays qualifié de venir participer à une compétition parce qu'il y a un problème politique. C'est là où le bas blesse, Yacouba.
Merci Amdine. Si on va rappeler que la prochaine CAN, c'est à Abidjan, comme vous l'avez rectifié Amdine. Et justement, ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Maroc, c'est que le Maroc avait demandé un vol direct pour atterrir à Constantine où le groupe est logé pour le CHAN jouer cette année. Malheureusement, l'Algérie a refusé, comme quoi le Maroc ne peut pas survoler son espace aérien. Et donc un problème politique qui aboutit au retrait des Lions de l'Atlas locaux du CHAN 2022, disputé en 2023. Ne quittez pas. Tout de suite, je vous annonce quand même les nommés pour le titre de meilleur joueur de FIFA de l'année 2022. Il s'agit de Karim Benzema du Real Madrid et de la France, Kylian Mbappé du PSG et de la France, Lionel Messi du PSG et de l'Argentine. On n'aura pas le temps de commenter justement ces différents nommés. Là, on va y revenir sans doute lorsque les différents prix vont être attribués. N'oubliez pas aussi, côté gardien, le Marocain Yacine Bounou du FC Séville fait partie des trois nommés pour le titre de meilleur gardien de l'année, aux côtés de l'Argentin Emiliano Martinez et du Belge Thibaut Courtois du Real Madrid. Ne bougez pas, on marque une courte pause et on prend la direction des Dakar. Mais attendez, on revient tout de suite. Nous changeons donc de discipline et direction Dakar pour parler du Grand Prix de Dakar, une compétition de moto, scooter et voiture prévue les 18 et 19 février prochains. Nous retrouvons tout de suite en direct de la capitale sénégalaise, Maodo Malick Ndiaye. Il est journaliste sportif sénégalais, bien sûr, et promoteur de cette compétition. Bonsoir Malick.
Bonsoir Monsieur Yacouba Ouattara-Ogo.
Relevez, retirez le titre de monsieur. Comment ça va? Bon. Ça va bien?
Oui, ça va. Merci beaucoup.
Alors, dites-nous, à quoi les amoureux de ces courses doivent s'attendre cette année?
Alors, nous sommes une association sportive et culturelle qui s'appelle le Trophée Mousseau Organisation. Nous organisons depuis 2002 des compétitions sportives et culturelles. Nous avons organisé une course qui s'appelle le Trophée Mousseau, qui est uniquement réservée aux femmes. Donc on l'a organisé de 2002 jusqu'à 2007. Ensuite, on a eu une interruption pendant 13 ans. On a repris la compétition il y a 2 ans. Et malgré il y a eu ces problèmes de Covid, donc on a dû tout arrêter. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le premier Grand Prix de Dakar. C'est une première. Nous allons réunir des hommes, nous allons réunir des femmes. Il y aura également des jeunes, le temps d'un week-end. Et donc, nous attendons 24 concurrents en voiture, que ce soit des hommes ou des femmes. Nous attendons 12 pilotes moto et 12 jeunes en scooter. Alors, ce week-end sera également animé par des artistes lors des pauses, parce que le samedi, la compétition va démarrer à 8h du matin pour finir à 18h. Et entre-temps, il y aura une pause. Et durant cette pause, les artistes comme les frères Guissé ou encore LJ Diamond, Big D, il y aura même une partie de la chorale Julien Jega qui va prester. Et puis, nous avons même invité un groupe cap-verdien de Batuka. Wow. C'est une histoire c'est pour relancer, en fait, le sport mécanique au niveau du Sénégal.
Justement, excusez-moi mon ignorance, est-ce que vous avez un cadre approprié pour cela à Dakar?
Alors, nous avons le
très rapidement.
Le circuit Dakar Baobab. Là, nous comptons organiser à Dakar. C'est le Grand Prix de Dakar, donc on va rester à Dakar. Et nous allons l'organiser sur l'ancienne piste en fait, de l'aéroport de Paul Sédar Senghor. C'est la piste 21, en fait. C'est au niveau de Wakam. Et nous avons donc cette piste que nous allons aménager. C'est comme le Paris-Dakar. Ils arrivent dans le désert, il n'y a rien. Et tout est mis en place afin de pouvoir faire une belle fête ce week-end du 18 et 19 février, de 8h à 18h.
Très, très rapidement, M. Malick Ndiaye, alors, cette compétition a aussi un volet social, vous le disiez tout à l'heure. Alors, dites-nous, en quoi cela va consister cette année, ce volet social de la compétition?
Alors, nous avons réfléchi à un côté social et nous avons rencontré les gens du village SOS, le village d'enfants. Donc ce sont des enfants qui se trouvent dans des difficultés, ils sont dans différentes régions du Sénégal. Et nous, notre association a commencé à soutenir les SOS Village d'enfants. Alors c'est très très simple, toutes les personnes qui vont venir durant ce week-end seront priées d'apporter soit du lait, soit des cahiers, des couvertures, des chaussures, que chacun puisse faire un geste par rapport à ces enfants qui sont en difficulté.
Merci beaucoup.
Voilà, on va demander.
Merci. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Maodo Malick Ndia. Je rappelle que cette émission tire vers sa fin, disons. Vous êtes journaliste sportif sénégalais, promoteur donc du Grand Prix du Dakar, une compétition de motos, de scooters et de voitures prévue les 18 et 19 février prochains. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants Élisée Mpati, Namil Birouk, le doyen Jules Valentin Nguéam Dinsi. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Michel Joseph. Je suis Yakuba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. On va encore parler de ce grand prix, disons, de Dakar. Et on va retrouver encore Malick Ndiaye. En attendant, au revoir.